Les écologiques.
Avec Thierry Dutoit, écologue à l'IMBE, spécialiste en restauration écologique.
Il fallait faire un bilan des opérations de restauration écologique. On constaterait, comme ça a déjà pu être dit dans les podcasts précédents, que la plupart ont un bilan mitigé. Lorsqu'on fait une restauration active, on se base sur une appréhension imparfaite de la biodiversité, on compte certaines espèces, généralement celles qui sont connues, on en oublie beaucoup, notamment celles qui sont présentes dans le sol, difficilement identifiables. De la même façon, lorsqu'on réhabilite, cette fois-ci qu'on se base sur des fonctions des écosystèmes, appelées aussi services écosystémiques, lorsqu'elles sont favorables à l'homme, on constate que les mesures sont imparfaites, qu'on oublie certaines fonctions, qu'on ne sait pas mesurer certaines fonctions, et que d'autres sont surreprésentées. Enfin, lorsqu'on veut renaturer, et qu'on ne se base pas cette fois-ci sur de la biodiversité ou des fonctionnalités, mais simplement sur le retour du sauvage, généralement par des méthodes passives de restauration, le laisser faire la nature, on constate que cette nature qui revient ne peut pas être qualifiée de naturelle, parce que les processus en cours, les processus de renaturation spontanée en cours, sont influencés par des millénaires d'interaction entre l'homme et la nature, un héritage finalement de ces interactions, et que de la même façon, l'homme étant actuellement omniprésent dans les processus qui régissent le fonctionnement des biosphères, il suffit de penser aux changements globaux, on s'aperçoit que ces processus doivent être qualifiés de spontanés et non pas de naturels par rapport à ces influences historiques que peuvent avoir l'homme et ces influences spatiales, puisque l'écosystème considéré est souvent influencé par ce qui se passe à son voisinage, ou plus globalement, au niveau climatique ou au niveau changement d'usage. Donc, face à ce constat, on entend aussi de plus en plus parler de réensauvagement. Un célèbre livre est sorti récemment sur le réensauvagement de l'Europe. Le réensauvagement qui consiste, finalement, tout simplement, à faire que l'homme s'écarte de nombreux espaces naturels et que processus dit naturel puisse s'exprimer. Généralement, dans ces espaces, on peut être amené à réintroduire des éléments manquants au fonctionnement de ce sauvage, à savoir, par exemple, les grands herbivores qui ont notamment été réintroduits au site de l'Auvergne, en Margeride, le fameux bison d'Europe, ou d'autres expérimentations où on a réintroduit ces grands herbivores qui sont une des composantes essentielles pour l'ouverture des milieux face à la dynamique des successions secondaires qui mène à la forêt. Dans tous les cas, ces expériences concernent de grands espaces, bien évidemment, pour permettre à ces troupeaux de pouvoir vivre, et se sont mis en place sur des terrains eux-mêmes influencés par l'homme de façon historique. Leurs résultats montrent que si cette nature, bien évidemment, fonctionne, si les grands herbivores peuvent à nouveau ouvrir le milieu, il manque cependant à nouveau de certains régulateurs, en fait, de ces herbivores, que sont les grands prédateurs. Les grands prédateurs comme le loup, le lynx, etc., qui, pour partie, sont revenus naturellement, et pour d'autres parties, ont été réintroduits, notamment pour le lynx, sont effectivement les régulateurs, en fait, de ces troupeaux, et eux-mêmes nécessitent de très grands espaces pour pouvoir accomplir cette action de régulation. Il en résulte donc finalement que l'homme s'écarte pour laisser place à plus de nature naturelle, avec toutes les composantes fonctionnelles, les grands herbivores, la régulation des herbivores par les prédateurs, le laisser-faire quand les tempêtes ravagent certains espaces, etc., pose problème par rapport à la place de l'homme, surtout en Europe. Plusieurs centaines de millions de personnes présentes sur cet espace. Il est donc difficile pour l'homme de se pousser pour laisser, en fait, cette renaturation, ce réensauvagement aux échelles fonctionnelles, en fait, qu'il nécessite, à savoir des millions d'hectares. C'est pourquoi actuellement on préconise plus un réensauvagement fonctionnel, c'est-à-dire que plutôt que laisser des grands espaces de nature revenir, on va plutôt viser la restauration de corridors naturels qui vont avoir tendance à reconnecter des espaces plus ou moins laissés naturels et permettre le déplacement des troupeaux, permettre une certaine connexion. Il en résulte donc à nouveau que derrière cette volonté de réensauvagement, comme celle de restauration de la biodiversité, comme celle de réhabilitation des fonctions, comme celle de renaturation, ne donnera pas les effets escomptés, puisqu'encore une fois, la présence de l'homme à travers son impact majeur historique et son impact majeur actuellement spatial, influence les systèmes, à la fois au niveau écologique, mais ceci à la fois au niveau socio-économique, puisque les espaces complètement réensauvagés ne permettent pas toujours à une activité économique de se mettre en place pour les populations locales qui y habitent. Cela rejoint la conclusion de notre podcast précédent. Quelle nature voulons-nous ? Une nature diversifiée. Quelle nature aurons-nous ? Une nature diversifiée, mais pas tant par rapport aux objectifs que nous sommes fixés, mais aussi par rapport à la résilience globale de la nature qui va toujours ménager des surprises par rapport à ses historiques très différents, en fait, avec l'homme, ou son fonctionnement très différent selon les espaces concernés. Le maître mot doit donc rester diversité. Diversité de nos interactions avec la nature, diversité dans nos actions, pour engendrer une diversité des réponses qui font toute la beauté, toute la richesse de la nature telle que nous l'aimons.